CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute du MAG du Pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine et réhabilitation. Dans un premier temps, c'est Philippe Miasso, qui est membre du CAE, qui est architecte au CAE, qui est le conseil en architecture, urbanisme et environnement, qui va développer comment le CAE a édité une plaquette de conseils pour les collectivités locales quand elles envisagent de réhabiliter les bêtises à ne pas faire, en gros. Dans un deuxième temps, nous recevons Sandrine Pradier, qui est chef de projet de l'inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy, qui est en train de piloter des étudiants qui viennent de Polytech Tours, de l'école polytechnique de Tours, et qui font un stage de 3 mois. Et bien entendu, du coup, on leur a confié une mission, c'est de tâcher d'élaborer, allez, on va dire, une étude de préfiguration, comme ça que ça s'appelle, sur la possibilité de réaliser un pôle de compétences liant justement réhabilitation du patrimoine ancien et rénovation. C'est jamais pareil, réhabilitation et rénovation, puisque rénovation, il s'agit d'habiter. Donc il s'agit que ça soit isolé, que ça soit confortable. Et réhabilitation, il s'agit que ça soit dans le cadre de la façon dont le bâtiment a été construit. Mais bon, on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais il y a aussi beaucoup de choses, évidemment, cette veille de 14 juillet sur le territoire. Des visites guidées, tout d'abord, visite guidée du village médiéval de Caylus, jeudi à 10h30. Ça dure 1h30, c'est 3 € par personne, c'est gratuit jusqu'à 12 ans. Dans le cadre université occitane Lengovivo à la Guépi, il y a un concert au camping, jeudi 12 juillet. À la pêche, c'est un bal champêtre, organisé par l'association Le Petit Bal Perdu, c'est très joli. Des balles populaires et des feux d'artifice, vous en trouverez partout vendredi 13 juillet, en particulier à Albias. À Caussade, marché bio et artisanal tous les vendredis après-midi. Bien sûr, à Caussade et à Sept-Fonds démarrent les 20e estivales du chapeau avec un programme long comme le bras. Je vous encourage à prendre des renseignements auprès de l'office de tourisme de Caussade ou du syndicat d'initiative de Sept-Fonds, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, beaucoup d'expositions, de défilés de mode, et j'en passe. Il y a bien entendu dimanche après-midi Danse Trad, sous la halle, dimanche 15 juillet à 14h30. Les fêtes du 14 juillet à Montricou, à Nègrepelisse, à Caylus, à Bioul, il y a souvent des fêtes, des vide-greniers, des bals musettes et des feux d'artifice. À noter, samedi 14 juillet à Bruniquel, à la Maison Payrol, une conférence à 18h par Jacques Miquel, historien sur les Templiers. Des vide-greniers aussi, tenez, vide-grenier à Bioul, dimanche 15 juillet, brocante à Caussade, toute la journée sur les promenades. À la Guépi, vide-grenier, brocante, vide-garage, dimanche 15 juillet. Une journée modélisme à Molière, sur la base de loisirs du Malivert. À Montclar-de-Quercy, marché occitan. Un spectacle à Saint-Antonin-Nobleval, mardi 17 juillet. Renseignements généraux, Laurent Joly. C'est gratuit, c'est offert par le centre CCASEDF. C'est dans la mairie. Et mardi 17 juillet, inscrivez-vous. C'est un marché gourmand à Saint-Projet à partir de 19h. Il y a du monde en général. C'est le 05 63 65 74 82. Philippe Miasso, urbaniste au CAUE. Rappelez-nous ce qu'est le CAUE.
Le CAUE, c'est une association créée en 77 par la loi et qui veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et qui a été créée dans le département du Tarn-et-Garonne en 1981. Et donc depuis 30 ans maintenant, sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère dans tous les actes de la vie de l'urbanisme et de l'aménagement dans le département, tant pour les communes, pour les particuliers.
On peut donc d'emblée lever une ambiguïté, le E de CAUE, c'est pas État.
Non, pas du tout. Le E de CAUE...
Alors, il y a un diplôme architecte urbaniste de l'État.
Exactement. Mais l'architecte urbaniste de l'État, sa vocation, comme vous le sous-entendez, est d'être dans les services de l'État. Alors que l'architecture et le paysage dans les CAUE, c'est du conseil avant tout. Et le conseil, c'est donc d'être très très en amont de toutes les opérations, de répondre aux questions et même de poser des questions qui ne sont pas encore posées pour permettre à tout décideur, à tout aménageur, d'avoir une réponse complètement adéquate auquel il a pensé et qui corresponde à une harmonie avec le contexte dans lequel il est.
Ça veut dire que votre intervention se situe même au niveau de l'avant-projet.
Effectivement, l'action du CAUE, c'est très 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 en amont, voire même avant le projet, proprement dit. Et ce qui fait que dans les années 2007, après les dernières réformes du permis de construire, les administrateurs du CAUE, donc des élus, ont demandé au CAUE de réfléchir pour que tous les acteurs de l'aménagement, que sont l'État, les subdivisions, l'architecte des bâtiments de France, voire l'architecte, puissent avoir une harmonie dans leurs réponses par rapport aux extensions urbaines et villageoises. Cette question est d'autant plus importante aujourd'hui que les nouveaux textes législatifs qui sont apparus, ne serait-ce que les textes de Grenelle 2 récemment, mais Grenelle 1 précédemment, mettaient en avant plusieurs points. Et le premier, c'était la non-consommation d'espace, ou plutôt la maîtrise de la consommation des sols, l'économie d'énergie. Et donc toutes ces préoccupations ont bouleversé un petit peu l'élaboration des projets. D'où cette demande des administrateurs du CAUE pour réaliser ce qu'on appelle un guide. Et donc, vous avez compris que,
Ça vaut le
oui.
coup de résumer le tout, effectivement, dans quelque chose qui va aider dans les démarches. Sinon, on vous pose presque toujours les mêmes questions.
Effectivement, c'est toujours les mêmes questions. Et je dirais que si c'est en fait le challenge, c'est un peu sortir du syndrome de la solution pour entrer dans la dynamique du projet. Et ça veut simplement dire que pour éviter d'avoir toujours des questions qui sont en fait posées trop tard, faire en sorte qu'on mette en place une méthodologie qui puisse permettre à tout acteur, et en priorité les élus, de réfléchir très très en amont à l'élaboration de leur projet. D'où la création de cette réflexion qui a commencé en 2009 avec les partenaires donc, que sont l'État, l'architecte des bâtiments de France, l'association des maires, représentée par différents élus des différents pays du Tarn-et-Garonne, les professionnels que sont les architectes. Ce groupe de travail a été mis en place donc fin 2009 et pendant plusieurs réunions, vous comprenez bien que ça fait maintenant 2 ou 3 ans, on a mis en place cette méthodologie. Alors le principe même de ce guide, c'est de mettre en avant le questionnement comme méthodologie, c'est-à-dire faire en sorte que les questions que l'on se pose vont permettre à tout décideur d'être en adéquation avec des principes qui sont dans ce guide. En gros,
Pardon, est-ce que ça va jusqu'à aider un particulier à comprendre finalement une politique de développement urbanistique dans laquelle s'est inscrit sa propre commune?
très bonne question. Effectivement, dans la deuxième étape de la fusée, c'est effectivement de cibler les habitants du Tarn-et-Garonne et faire en sorte que chaque habitant prennent conscience qu'à chaque fois qu'il fait un projet, à chaque fois qu'il réalise quelque chose, s'inscrit dans un contexte plus global, plus vaste, et qui touche directement des réflexions, par exemple, modification du climat, la consommation du sol, le contexte législatif, voire même s'inscrivent dans une prospective, et donc la célèbre attractivité toulousaine. Le sud du département du Tarn-et-Garonne est très très impacté, voire, et ça monte jusqu'à Castelmoissac. Et donc chaque habitant est à même de situer son projet dans cette vaste problématique qu'est l'aménagement du territoire et l'urbanisme aujourd'hui en 2012. D'où effectivement cette lecture qui peut être prise comme un jeu, puisque ça a été conçu de telle façon que on pose des questions et celui qui souhaite s'inscrire dans cette méthodologie, dans ce guide, peut essayer de répondre à toutes les questions qui sont posées et ainsi avancer dans l'élaboration de son projet pas à pas.
Mais attendez, si je comprends bien, ce guide-là, il devrait être obligatoire. C'est-à-dire, on devrait même l'apprendre dans les écoles. On arrêterait d'entendre des propos de comptoir qui diraient que, ouais, moi, l'ABF, le dernier, il voulait voir la pierre, puis maintenant, il veut du crépi, l'autre, il voulait du bleu, maintenant. Je vous parle de zones classées monuments historiques. En fait, avoir la compréhension de l'ensemble dans lequel on se situe, ça permettrait que les gens arrêtent de délirer.
Effectivement, c'est très ambitieux ce que vous dites, mais comme un organisme de conseil qui est sérieux, même si nos partenaires sont plus régaliens, tels que l'État, le principe, c'est quand même, en tant que conseil, c'est d'être à sa place. Et donc, imposer quelque chose, on sait très bien que c'est l'efficacité est beaucoup plus difficile. Et donc, très modestement, ou peut-être pas du tout modestement, la pédagogie, comme base de départ, et puis faire en sorte que l'appropriation de cette réflexion soit partagée par un plus grand nombre, feront que la démarche participative fera qu'on parle des habitants, et non pas de, et des élus donc, entre autres, et non pas de quelque chose qui viendrait être imposé et qui serait, voire pour certains, irrespectueux à l'égard de certains décideurs. Et on voit bien que les relations parfois tendues avec certains services débouchent sur des situations de clivage qui reposent même sur la place de chacun. Et celui qui a un rôle régalien, il a le droit, il peut avoir une attitude plus forte. Mais celui qui a s'inscrit dans le temps plus long de la démarche de projet, c'est-à-dire réaliser une construction dans son site, dans son situation plus globale, très modestement, il espère que celui qui va faire cet objet prenne conscience que cet objet, même s'il lui appartient en tant que propriétaire, il appartient aussi à celui qui le regarde, il appartient aussi à celui qui doit en gérer les réseaux, c'est-à-dire les élus, il appartient aussi à personne qui vient traverser le Tarn-et-Garonne et qui va voir le paysage en tant qu'élément touristique. Et donc, tous ces éléments font que l'acte de bâtir, l'acte de construire, devient un acte presque civique, un acte de service qui participe à cette vision commune que l'on a de son territoire, et effectivement est fait de sortir chaque propriétaire de son projet individuel. C'est très très compliqué, parce que chacun construit le projet de sa vie, le projet qui lui tient à cœur, et donc poser ce type de questions va à l'encontre même de ce qu'il a l'intention de faire parfois. D'où cette idée d'être très 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 en amont, d'où l'idée de guide, et de poser la question: pourquoi construire? Pourquoi construire ici? Sur quoi je m'appuie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment prendre en compte les textes législatifs? Comment prendre en compte mon désir d'habiter? Comment prendre en compte le paysage? Comment prendre en compte les réseaux qui existent? Ensuite, comment je vais construire? Avec quel financement? Avec quel rapport avec ma commune? Comment je dois respecter le document d'urbanisme qui existe? Faire en sorte que toutes ces questions-là soient mises à plat et n'apparaissent pas après avoir réalisé sur plan le projet de mes rêves. Et ceci, c'est très important pour faire en sorte que chaque personne qui construit aujourd'hui prenne conscience que sa maison va appartenir à un quartier, à un village, à une ville. Et donc, il doit y avoir une harmonie et un respect mutuel entre le projet commun de la commune et mon projet individuel auquel je tiens. Et donc, ce guide a pour ambition de poser les bases de ce débat-là, pour faire en sorte que chacun, à la fin, reste à sa place et trouve son compte. Mais c'est que le début de l'aventure, on dirait.
Oui, alors où peut-on le trouver, ce guide? Dans toutes les mairies, j'espère.
Alors ce guide, effectivement, il est disponible à terme dans toutes les mairies. Pour l'instant, il y a, je sais plus combien, mais il y a un certain nombre de mairies. On a envoyé le guide à l'ensemble des partenaires du SAIE, et l'objectif, c'est que toutes les communes du Tarn-et-Garonne puissent avoir ce guide, et si celles qui ne l'ont pas encore, ils vont l'avoir dans les semaines qui viennent. Sinon, le SAIE dispose bien sûr de ce guide. Mais pour les habitants, les différents moyens d'obtenir ce guide sont le site internet du SAIE, qui permet de télécharger ce guide, et puis toutes les communes qui mettront à la disposition de tous les habitants ce guide.
Alors pour vous, c'est caum-mp.fr, et on trouve ce guide téléchargeable.
Voilà, c'est ça.
Formidable. Philippe Miasso du CAE, je vous remercie.
Merci, au revoir.
C'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Sandrine Pradier, chef de projet de l'inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, vous nous amenez un certain nombre de jeunes hommes. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Racontez-nous tout.
Alors en fait, le pays Midi-Quercy a lancé une proposition de stage auprès d'étudiants pour réaliser une étude de préfiguration d'un pôle de compétences sur la réhabilitation thermique du bâti ancien. Le pays Midi-Quercy mène des actions de connaissance du patrimoine grâce à l'inventaire, mais également a lancé un plan climat énergie qui vise à réduire la consommation d'énergie sur le territoire et participe à un projet de maison de l'emploi et du développement durable. Celui-ci a lancé un programme d'action dans lequel nous avons proposé l'élaboration d'un pôle de compétences sur la réhabilitation du bâti ancien. L'idée vient que le patrimoine du territoire est très riche, cependant celui-ci pose de gros problèmes en termes de réhabilitation d'un point de vue tout d'abord architectural et dans un second temps, quand on amène la réflexion sur les économies d'énergie, on amène encore plus de complexité. On a sur le territoire des savoir-faire liés au bâti ancien qu'il s'agit de valoriser et il s'agit aussi de faire en sorte de monter en compétence sur la question de la réhabilitation thermique. En France, les idées de conservation du patrimoine et de développement durable s'opposent encore bien souvent. Donc nous, on se propose de réunir des compétences au niveau du territoire pour mieux agir sur la préservation du patrimoine.
Alors on a Hugo, Romain, Brice, Alexandre et Thomas autour de la table. Qui veut commencer?
Donc moi c'est Hugo. Alors on est tous à l'école d'ingénieurs polytechniques de Tours en génie de l'aménagement. Et donc on effectue notre stage de quatrième année au Pays Midi-Quercy pour la création d'une étude d'opportunité sur la création d'un pôle de compétences pour la réhabilitation du bâti ancien.
Là c'est une architecture qu'on ne connaissait pas. En tout cas pas aussi précisément que maintenant. Ici c'est vrai qu'on a un peu découvert la terre crue et la terre cuite, son fonctionnement, son utilisation, la pierre, notre type de pierre avec les causes.
Il s'agit d'une étude de préfiguration, donc ouais. Le travail des étudiants vise à mieux comprendre le territoire, à rencontrer l'ensemble des acteurs pour proposer cette idée de pôle de compétences, proposer également des actions à l'intérieur de ce pôle. L'idée du stage qui dure 3 mois et demi n'est pas de trouver des solutions pour réhabiliter le bâti, mais vraiment de proposer la création d'une structure, pas une structure nouvelle, mais un regroupement qui vise à donner les meilleures conditions pour la réhabilitation thermique du bâti ancien.
Peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le particulier ou même la collectivité qui veut réhabiliter son patrimoine ancien, elle ne sait pas forcément à qui s'adresser. Elle ne sait pas si l'artisan à qui elle va s'adresser, il a les compétences qu'elle recherche et les autres acteurs dans un cadre plus large.
Ça, c'est un vrai boulot, hein, arriver à connaître les compétences des maçons qui, justement, eux, ceux qui sont en activité aujourd'hui, ont été formés pendant la période noire, hein, je dirais, de la réhabilitation, c'est-à-dire la période ciment, quoi. Comment admettre, quand on est maçon et qu'on a toujours été formé avec ça, que la chaux est millénaire alors que le ciment n'est que séculaire et qu'on constate aujourd'hui que c'était une erreur?
En fait, sur le territoire, on a quand même beaucoup de chance car on a des artisans qui travaillent très bien et qui œuvrent pour la réhabilitation du patrimoine. Et justement, à travers ce pôle, on veut valoriser cette excellence du métier d'artisan qui est quand même peu reconnu, peu valorisé. Et on souhaite créer un annuaire spécifique au territoire, en fait.
Ah, qui pourrait être un accompagnement du guide du CAUE, puisque le Conseil en architecture, urbanisme et environnement vient d'éditer justement des grandes lignes pour conseiller ne serait-ce que les collectivités territoriales. Regardez le patrimoine que vous avez. Vous savez que dès que vous y touchez, vous rentrez dans un cadre en général conservé. Des propositions d'action déjà, Thomas ?
Oui, alors donc nous ce qu'on propose, ça serait un scénario évolutif en 3 phases.
Donc la première phase, ce serait notamment de formaliser, de valoriser le réseau de compétences existant sur le territoire, ce qui passerait notamment par la création d'une charte de qualité, donc qui permettrait avec différents critères de sélectionner les artisans les plus compétents sur le territoire.
Et sélectionner les artisans,
c'est
comment vous y allez?
Eh ben, c'est après, ce sera dans les critères de la charte qu'on n'a pas proposé directement, mais on a proposé des pistes de réflexion. Et après, il faudra que les artisans et les acteurs de la réhabilitation du territoire se rencontrent après aussi pour formuler eux-mêmes cette charte, donc qui sera un élément essentiel du fonctionnement du pôle, on va dire. Et donc ensuite, sur la base de cette charte, on pourrait aussi créer un site internet qui permettrait de faire le lien entre tous les acteurs sur ce site, sur le sujet de la réhabilitation thermique du bâti ancien, de faire un annuaire des entreprises adhérentes à la charte, et aussi surtout de les mettre en valeur, ces artisans, par la présence d'un book photo qu'ils auront eux-mêmes choisi, où ils pourraient présenter leur chantier, leur savoir-faire vraiment directement et graphiquement.
En fait, à travers l'idée de pôle de compétences, on veut valoriser les ressources du territoire qui sont avant tout humaines et les savoir-faire traditionnels. C'est revenir au local, consommer local. C'est valable pour l'agriculture, mais c'est aussi valable pour le bâtiment. On souhaiterait redévelopper les filières locales, donc ça c'est très compliqué. Mais avant cela, maintenir les emplois et les savoir-faire traditionnels qui sont encore proposé par les artisans.
Donc on ne pourra pas délocaliser la réhabilitation par les Chinois sur le territoire.
On l'espère, parce qu'aujourd'hui les artisans vont être de plus en plus concurrencés par des grands groupes, et donc nos actions viseraient à les protéger de cette concurrence. Voilà.
Thomas, Alexandre, Brice, Romain, Hugo de Polytech Tours, je vous remercie. Merci Sandrine de nous avoir amenés.
Merci.
Merci à vous aussi.
Merci à vous.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du pays Midi-Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.